الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours sur les fondements de l'islam. Nous avons commencé la fois dernière l'introduction concernant le livre des quatre règles. Et nous allons expliquer aujourd'hui la première et la deuxième règle, Inch'Allah.
Al-Qa'idatu l'Ula, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fi l'islam. Wa al-dalilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
La première règle, c'est que tu saches que les mécréants qui combattaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah est le créateur, l'administrateur, et que cette reconnaissance de cela ne les fit pas entrer en islam. Ceci est indiqué par la parole d'Allah dans le sens dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Disent alors: ne le craignez-vous donc pas? Cette première règle, son objectif est d'expliquer deux points. Le premier point est que les mécréants qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient en partie l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire le fait de reconnaître Allah en son essence et en ses actes, en ce qu'il fait. Alors l'écrivain rahimahullah a expliqué cela en disant qu'il reconnaissait qu'Allah était le créateur, l'administrateur. Car la création et l'administration de toutes choses font partie des plus grands actes parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les actes qu'Allah fait dans sa seigneurie, ar-rububiyya. Le deuxième point que cette règle est venue exposer, c'est que leur reconnaissance dans l'unicité d'Allah, dans sa seigneurie, en partie, comme on va le voir, ne suffit pas pour qu'ils entrent en islam. En effet, ceci n'a pas fait d'eux des musulmans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec eux et les a considérés comme des mécréants et il les a combattus, même s'ils reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils étaient musulmans par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait pas demandé d'entrer en islam, car ils auraient déjà été musulmans. Et il ne les aurait pas combattus à cause de cela. Et il a pris appui pour prouver cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Yunus, verset 31, dans le sens de la parole, dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Disent alors: ne le craignez-vous donc pas? Alors ce verset prouve deux choses ensemble, ou bien est venu appuyer les deux points précédents. Le premier point, le fait qu'ils reconnaissent que la subsistance, que la possession et que l'administration de toute chose revient à Allah. Ils reconnaissent cela, comme ici dans le verset. Quand on les questionne, ils répondent: c'est Allah. Donc ils reconnaissent quand ils sont questionnés, comme quand Allah Ta'ala dit: فَسَيَقُولُونَ Allah. Ils diront: c'est Allah. Donc ils reconnaissent ces points-là. Et la preuve de ce verset pour le deuxième point qui est lié à cette règle, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a réprouvés et a dénoncé le fait qu'ils adoraient un autre qu'Allah avec lui. quand il leur a dit « فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ » dit alors « Ne craignez-vous donc pas Allah » c'est-à-dire « Établis la preuve sur eux » que puisque vous reconnaissez qu'Allah est le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, l'administrateur de toutes choses, celui qui pourvoit à toutes les créatures, alors pourquoi vous ne le craignez pas et vous donnez des associés à Allah, vous adorez autre qu'Allah en même temps que vous adorez Allah. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a blâmé le fait qu'il donnait des associés à Allah dans son adoration. Subhanahu wa ta'ala. Donc par cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur a demandé, puisque vous reconnaissez la seigneurie d'Allah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, ceci implique que vous reconnaissiez qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et nul autre à part lui, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir qu'en réalité, ils ne reconnaissaient pas la seigneurie d'Allah complètement. Car celui qui a un tawhid, qui est dans l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, elle est parfaite, elle est complète. Cela ne peut le guider qu'à l'adoration d'Allah seul et ne pas adorer autre qu'Allah. Donc en vérité, ils reconnaissaient ça avec leur langue. Ils reconnaissaient une partie de la seigneurie, mais ils avaient des manquements même dans certains points de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le Cheikh rahimahullah a énoncé la deuxième règle. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه La deuxième règle, c'est qu'ils disent nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah, dans le sens, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de lui, disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur, et grand mécréant. Le fait qu'ils leur demandent l'intercession est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Il y a deux types d'intercession. L'une est niée, rejetée, et l'autre est confirmée. L'intercession niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder. Dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède, et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah. Comme il le dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ce qui est expliqué dans cette règle, c'est que ce qui pousse les polythéistes à adorer et invoquer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à s'orienter vers eux, sont deux choses. La première chose qui les pousse à cela, c'est la demande de rapprochement. C'est le fait de demander à s'approcher d'Allah. Comme il a dit, rahimahullah, en citant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de lui, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et la deuxième chose, le deuxième point, la deuxième cause qui les pousse à invoquer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de demander l'intercession. Et la preuve de cela, on l'a cité dans le verset auparavant, où ils disent « Et ils adorent au lieu d'Allah ceux qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter. » Et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Donc on voit les deux causes qui les poussent à donner des associés à Allah et à invoquer autre qu'Allah sont demander le rapprochement d'Allah ou bien demander l'intercession de ceux qu'ils prétendent qu'ils peuvent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces polythéistes qui adoraient autre qu'Allah n'avaient pas comme conviction et comme croyance que leurs êtres adorés pouvaient administrer les affaires sur terre et qu'elles soient indépendantes dans leur volonté. Ils croyaient simplement que en se dirigeant vers eux, ils pouvaient atteindre ces deux objectifs. Se rapprocher d'Allah et avoir l'intercession de ces êtres adorés en dehors d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre demander le rapprochement d'Allah et demander l'intercession, c'est que demander le rapprochement, c'est en fait chercher à s'élever en degré auprès d'Allah et à atteindre les degrés de complétude. Et la demande d'intercession, c'est pour se préserver de son châtiment et d'écarter les manquements et les faiblesses qui peuvent toucher l'être humain. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rendu caduque et nul toutes leurs demandes et tous leurs mensonges, que ce soit dans la demande de rapprochement ou dans la demande d'intercession. Dans le fait qu'ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, en prétendant que ces protecteurs en dehors d'Allah allaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala a rendu nulle leur présence et leur existence. Car Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant d'eux, a dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » C'est le verset que l'écrivain a cité, rahimahullah. Et à la fin de ce verset, Allah Ta'ala dit « إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala a démenti leurs prétentions, car il les a traités de mensonges. Inna Allah la yahdi man huwa kadhib. Donc il a dit qu'ils sont menteurs dans leurs prétentions. Le fait de dire que d'adorer ces personnes en dehors d'Allah ou ces divinités en dehors d'Allah, aller les rapprocher d'Allah, Allah Ta'ala a démenti cela. Il a dit qu'ils sont des menteurs. Inna Allah la yahdi man huwa kadhib. Celui qui est menteur dans sa prétention. Et ceci montre qu'il n'existe pas auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des gens qui se partagent le pouvoir de protéger avec lui. Wali. Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Isra, wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull, qui n'a nul besoin de protection contre tout avilissement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le protéger ou pour l'aider à protéger. Donc c'est ce type de wilaya, de protection, elle est rejetée. Et c'est cette protection-là, c'est cette wilaya, c'est ce, quand il disait le wali, les associateurs, les polythéistes, c'est cela qu'ils entendaient par cela. Que cette personne pouvait les protéger en dehors d'Allah et se partager le pouvoir de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce type de wilaya, elle est rejetée. Celui qui peut protéger. Par contre, il y a un autre type de wilaya qu'on connaît en islam qui est al-wali, c'est-à-dire le bien-aimé d'Allah. Celui que Allah protège. Parce que c'est une personne qui craint Allah. Allah tabarak wa ta'ala a parlé d'eux dans le Coran. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les bien-aimés d'Allah, il n'y a nulle crainte qu'ils les touchent et qu'ils ne s'affligent pas. Ils ne s'affligent pas. Et après Allah Ta'ala cite qui ils sont. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui avaient la foi et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout musulman sincère qui craint Allah est un wali, est un bien-aimé d'Allah. Et il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, oui, il y a des awliya. Il y a des, on va dire entre guillemets, des saints, des gens protégés, des bien-aimés d'Allah. Tout croyant qui craint Allah est un wali, est un bien-aimé d'Allah. Alors que dans le sens que les associateurs et les polythéistes ont dit, wali dans le sens protecteur, non pas protégé. C'est-à-dire qu'il se partage le pouvoir de protéger avec Allah. Ceci est du polythéisme. Comprenez la différence ? Concernant l'intercession qu'ils espéraient en leur divinité, alors Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu caduque et annulé de quatre manières. Premièrement, il a nié le fait que l'intercession pouvait être faite par leur divinité. Dans sourate Ar-Rum, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. Le jour de l'avènement de l'heure, les criminels seront frappés de consternation. Ils n'auront point d'intercesseurs parmi leurs associés, parmi ceux qu'ils avaient associés à Allah. La deuxième manière par laquelle il a réfuté et rejeté le fait qu'il soit capable d'intercéder ou bien cette intercession rejetée, c'est qu'il a rejeté que leur divinité possédait l'intercession. Comme si c'était un pouvoir qu'ils avaient, quelque chose qui était de droit, acquis. Et ceci, cette intercession, elle n'appartient qu'à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Az-Zumar, versets 43 et 44, أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dans le sens de sa parole, ont-ils choisi des intercesseurs en dehors d'Allah? Dis-leur, les choisissez-vous alors qu'ils n'ont aucun pouvoir et sont dépourvus de raison, dis-leur, c'est Allah qui possède tout le pouvoir d'intercession. Le troisième moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a nié et rejeté ce type d'intercession rejetée, qui n'est pas valable, c'est le fait qu'il a dit qu'il était impossible qu'un intercesseur puisse intercéder avant qu'Allah ne lui donne la permission et avant qu'Allah ne l'agrée, qu'il soit agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit lui, que ce soit la personne pour qui il doit intercéder. Cet agrément de la part d'Allah, il doit être autant pour l'intercesseur que pour la personne envers qui il va intercéder. Car celui qu'Allah ta'ala ne veut pas qu'on intercède pour lui, personne ne pourra intercéder pour lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Sourate Saba, verset 23. Et l'intercession n'est d'aucune utilité auprès de lui, sauf pour celui à qui il a donné la permission. Sauf pour celui à qui il a donné la permission. Et il a dit: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Sourate An-Najm. Dans le sens de sa parole: et combien d'anges dans les cieux, leur intercession n'est d'aucune utilité sauf après que Allah ait donné la permission et qu'il en soit satisfait. Le quatrième moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a rendu caduque leur prétention d'intercession rejetée, c'est le fait qu'il a rendu caduque le fait que les mécréants puissent profiter de l'intercession des intercesseurs. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Muddathir, verset 48: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Les intercessions des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. D'aucune utilité. Donc l'intercession dont on parle ici, qui est dans le chapitre de la croyance, c'est le fait qu'une personne intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et religieusement parlant, sa définition, c'est le fait que l'intercesseur demande à Allah que le bien touche la personne envers qui il a intercédé. Et cette intercession est de deux types, on l'a dit tout à l'heure. Celle qui est rejetée, qui est caduque, c'est l'intercession dans laquelle il n'y a ni la permission d'Allah, ni son agrément. Et ceci est de deux sortes. C'est le fait que cette autorisation et cet agrément, ils soient écartés et rejetés de celui qui intercède. Et ici, on parle des divinités que les polythéistes adoraient. Ou bien de celui pour qui on intercède. Et là, on parle d'intercéder envers un mécréant. Car Allah Ta'ala n'accepte pas l'intercession envers un mécréant, pour un mécréant. Et l'écrivain, rahimahullah, a cité le verset: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, dans sourate Al-Baqara. Et la preuve dans ce verset concernant l'intercession rejetée, c'est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala: wala shafa'a. C'est-à-dire, ce jour-là, il n'y aura pas d'intercession. Et la deuxième catégorie d'intercession, c'est l'intercession acceptée, légale. Et cette intercession qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confirmée dans son livre, pour celui qu'il veut, pour celui qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Et la réalité, c'est que cette intercession, elle soit faite après la permission d'Allah et son agrément. Cette intercession, cette permission et son agrément, elle doit être et pour l'intercesseur, c'est-à-dire notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, et pour la personne pour qui il intercède, qui sont les musulmans parmi les pécheurs, ceux qui ont fait les grands péchés. Ceux qui ont fait les grands péchés parmi les musulmans, il intercédera en leur faveur. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder pour les mécréants. C'est-à-dire l'intercession pour les sauver du châtiment et ou pour qu'ils entrent au paradis. Il y a juste une exception spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a pu intercéder pour son oncle Abu Talib, mais non pas pour qu'il entre au paradis. Non pas pour qu'Allah lui pardonne ses péchés. Ce n'est pas possible parce qu'il est mort sur la mécréance. Mais simplement pour que son châtiment soit un peu allégé en enfer. Il sera châtié, il restera éternellement en enfer. Mais qu'il soit un peu allégé. Du fait qu'il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a aimé, qu'il l'a défendu. Mais cela ne lui est d'aucune utilité pour être sauvé de l'enfer. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a élevé, qui l'a aimé, qui l'a secouru, qui l'a défendu, et qui a subi les insultes et les attaques des gens à cause du fait qu'il ait défendu son neveu. Mais il l'a défendu et secouru pour sa personne, non pas pour Allah. Non pas pour secourir, pour que la religion d'Allah soit supérieure à la mécréance. Et on voit par là que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala peut même choisir des personnes dévoyées pour secourir l'islam. Comme il est venu dans le hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah peut secourir sa religion par une personne dévoyée, qu'il soit mécréant ou non mécréant. Mais ce secours-là, il est d'aucune utilité auprès d'Allah. Car tant qu'il n'a pas la foi, tant qu'il n'a pas le tawhid, rien de ses actes n'est accepté auprès d'Allah. Donc ça, c'est une exception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son oncle. Mais comme vous voyez, cette exception, elle reste dans les limites du possible. C'est-à-dire, il ne peut pas intercéder pour lui pour qu'il entre au paradis. Il ne peut pas intercéder pour lui pour qu'Allah lui pardonne ses péchés. Il ne peut pas intercéder pour lui pour qu'il ne soit plus châtié en enfer. Même pour être détruit, il ne peut pas intercéder pour qu'il ne soit plus rien. Non, il restera éternellement châtié en enfer. Comme dans le hadith, que la personne qui a le châtiment le plus léger en enfer, c'est une personne où on met deux braises sous le creux de ses pieds, de la plante de ses pieds. Elles sont tellement brûlantes que cela fait bouillir sa cervelle. Et il est dit que ce châtiment est celui d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment la proximité, la filiation, elle n'a servi à rien sans l'unicité et le monothéisme pur. Donc on voit que la différence entre une intercession rejetée et une intercession confirmée, elle est basée sur une qui a deux conditions. L'intercession, elle n'est acceptée qu'avec deux conditions, qui est la permission d'Allah et son agrément. Et on a expliqué auparavant, sa permission et son agrément, que ce soit pour l'intercesseur ou pour la personne en qui l'intercession est faite. Les deux, et non pas l'un. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala, il agrée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder par exemple pour les mécréants? Non, parce qu'Allah ne les agrée pas. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus aimé et le meilleur homme, et le meilleur des prophètes et l'imam des prophètes, même lui, il ne peut pas intercéder sans la permission d'Allah. Et il ne peut pas intercéder envers une personne en qui il n'a pas eu la permission d'intercéder. Et il ne peut pas intercéder sans l'agrément d'Allah, sans lui-même être agréé par Allah. Et il ne peut pas intercéder envers une personne qui n'est elle-même pas agréée par Allah. Dans ce cas, la personne va dire, quel est le sens et l'intérêt de l'intercession? Son sens, c'est que Allah, par cela, honore et gratifie certaines personnes en leur donnant cette possibilité d'intercéder. C'est un moyen de les gratifier, de les honorer le jour du jugement dernier. Quand une personne, elle intercède pour toi, pour que tu sortes de l'enfer, est-ce que ça ne montre pas la place qu'il a auprès d'Allah, cette personne? Qu'il est une personne aimée auprès d'Allah? Qu'il est une personne à qui Allah a donné la permission d'intercéder? Donc c'est quelqu'un qui a une grande place auprès d'Allah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera le jour du jugement dernier. Il intercédera pour que le jour du jugement commence, quand les gens seront dans la peur. Et il intercédera pour les croyants qui ont fait des grands péchés, qui sont destinés à l'enfer, même si ce n'est pas éternel, mais qui doivent passer par l'enfer, qui ont fait des grands péchés autres que le polythéisme. Donc il intercédera en leur faveur. Et ceci est une place, justement, cette place honorable qu'Allah tabarak wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et on voit aussi dans les textes qu'Allah va permettre aussi aux anges d'intercéder. Et qu'Allah va permettre à certains croyants pieux aussi d'intercéder pour les membres de leur famille qui ont fait des grands péchés. Ils vont intercéder pour eux, ceux qui ne sont pas morts sur la mécréance, pour qu'Allah leur pardonne et les fasse entrer au paradis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.